Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entretenus à Bruxelles avec leurs homologues d'Arabie Saoudite, de Jordanie, d'Égypte, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. C'était lundi, dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à trouver une solution à deux États après la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. On en parle, enfin Blaise en a parlé, avec Alberto Toscano. Il est journaliste et spécialiste des questions européennes. Voici ce qu'Alberto Toscano pense de cela.
Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions européennes. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont rencontré leurs 6 homologues d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de Jordanie, du Qatar et des Émirats Arabes Unis à Bruxelles. C'était lundi, pour la deuxième fois en un mois. Ils ont discuté des efforts visant à mettre un terme à la guerre d'Israël contre le Hamas. Alors pour commencer, Alberto Toscano, savons-nous déjà quelles ont été les conclusions de cette réunion ?
Ben, les conclusions, en réalité, on ne les connaît pas. On connaît de ce qu'on dit après ce genre de réunion, volonté de dialogue, volonté d'agir pour la paix, volonté de favoriser une solution pacifique de la situation au Moyen-Orient. En réalité, la situation est beaucoup plus compliquée de ce que les conclusions apparentes laissent imaginer, dans le sens que les pays comme l'Arabie Saoudite en particulier, mais aussi la Jordanie et les Émirats et les autres pays considérés comme des pays arabes modérés sont réfractaires à une solution qui rendrait l'Iran de plus en plus fort et influent dans cette région. Donc, bien sûr, ils critiquent Israël, mais de l'autre côté, ils craignent qu'une victoire politique du Hamas d'un côté et de l'Iran de l'autre soit susceptible de renforcer durablement l'influence de Téhéran dans toute cette région du Moyen-Orient. Et donc, il y a les problèmes immédiats et il y a les problèmes de perspective. Le problème immédiat est celui que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont examiné dans leur réunion à Bruxelles hier en particulier, et c'est-à-dire favoriser réellement une recomposition de la crise à travers un cessez-le-feu ou quand même une perspective de trêve et d'armistice.
Cette réunion, elle est arrivée alors qu'on venait d'apprendre que l'armée israélienne avait frappé Rafah, ce qui a déclenché de vives réactions mondiales et européennes. Cela a-t-il pu changer une partie des discussions ?
Oui, ça a changé la discussion, mais ça n'a pas compacté la position des 27 pays de l'Union européenne, dans le sens que l'Espagne, l'Irlande, la Belgique et même la France ont exprimé de façon parfois très dure leur soutien à la perspective de la naissance d'un État palestinien et leur critique vis-à-vis d'Israël. Alors l'Europe dans son ensemble est favorable à la logique de deux États. Mais encore faut-il avoir un État palestinien viable, démocratique, déterminé à vivre en paix avec Israël. Donc le problème n'est pas l'idée d'un État palestinien et la solution concrète d'approuver aujourd'hui la naissance, de reconnaître, comme l'Espagne vient de le faire, un État palestinien dont on ne connaît pas la véritable nature, et donc on n'est pas surtout la disponibilité à reconnaître Israël et à agir dans le sens de la paix.
Pour revenir là-dessus, vous l'avez dit, donc l'Espagne, l'Irlande l'ont reconnu, la Norvège l'a fait aussi même si elle n'est pas dans l'Union européenne. Doit-on s'attendre à ce qu'il soit suivi par d'autres pays européens dans les prochaines semaines ? Rappelons qu'Israël a dénoncé cette décision en disant que c'était une récompense pour le Hamas.
Tout est possible. La situation est très tendue sur le terrain, comme vous savez très bien. Et on sait très bien que le Hamas utilise la population civile comme de véritables boucliers humains. Et ça favorise évidemment des situations très, très dures sur le plan humain et humanitaire. Et Israël est déterminé apparemment à poursuivre son offensive. À l'horizon, il y a deux événements politiques majeurs. Le premier sont les élections européennes du 9 juin. Et dans la perspective de cet événement, les différents partis politiques, les différents gouvernements européens essaient de montrer, d'afficher une volonté de dialogue, de paix, et une volonté de protagonisme pour affirmer, pour favoriser la paix. Et l'autre événement dont on parle très peu, mais qui est très important, est le sommet du G7 en Italie, dans la région des Pouilles, du 13 au 15 juin prochain. Et à ce moment-là, les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus importants, des pays démocratiques les plus importants et plus influents du monde, prendront sans doute une position politique sur la question du Moyen-Orient. Et on peut imaginer qu'Israël voudra agir sur le terrain le plus possible pour consolider ses positions avant cette date. Parce qu'au moment de cette réunion, et à partir de cette réunion, ça sera probablement plus difficile pour le gouvernement israélien de maintenir son actuelle pression militaire sur le Hamas et dans le territoire palestinien. Donc, il y a comme une accélération aujourd'hui des événements et tout peut arriver dans cette période. C'est une période particulièrement délicate que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
Vous soulevez ce point très intéressant du G7 qui arrive mi-juin. On le sait, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie sont des soutiens de l'État d'Israël. Qu'en est-il du Japon et du Canada?
Le Japon, en particulier le Japon, a une position plus proche de la position des pays européens pro-palestiniens que de celle d'autres des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui affichent leur amitié pour Israël. Mais le Japon et le Canada, malgré tout, n'auront pas une position déterminante dans cette discussion. La véritable position déterminante et très influente sera celle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. L'Italie aussi, dans le sens qui est le pays qui préside le G7 et donc qui aura un rôle particulier dans la discussion. Mais il n'est pas impossible que lors de cette réunion du G7, il y ait une position commune qui, à ce point-là, aura un poids particulier sur les événements ultérieurs au Moyen-Orient. Donc, du point de vue israélien, il y aura peut-être un avant et un après cette réunion du G7, d'où la détermination à agir sur le terrain avant la mi-juin. Parce que après la mi-juin, ça sera peut-être plus difficile d'agir librement pour le gouvernement israélien.
Pour terminer, revenons à cette réunion à Bruxelles entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et leurs homologues arabes. C'est la deuxième en un mois, comme je l'ai dit. Cela veut-il dire que l'Union européenne a un réel rôle à jouer dans la résolution du conflit?
L'Union européenne pense avoir un réel rôle à jouer. Dans la réalité, ça c'est vrai jusqu'à un certain point. Et les clés de la paix sont aujourd'hui plus que jamais à Washington. Et les États-Unis, le rôle des États-Unis sera absolument déterminant, à la fois pour l'influence et la relation privilégiée que les États-Unis ont avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec l'Égypte et la Jordanie et la partie modérée du monde arabe, et de l'autre côté, parce que l'Union européenne est divisée. L'Union européenne restera probablement divisée à son intérieur, parce que le gouvernement, toute l'histoire de ces dernières années montre l'incapacité des pays de l'Union européenne de bâtir réellement une véritable politique étrangère et de la défense commune. Les États-Unis ont la capacité de faire suivre les faits aux paroles. L'Union européenne, là, jusqu'à un certain point. Et en plus, je crois que les États-Unis pourront s'engager aussi directement sur le terrain. À Gaza, ils ont montré leur volonté de présence, même physique, en réalisant ce port, ce point d'arrivée de marchandises pour les aides humanitaires à Gaza. C'est peut-être un premier pas, et peut-être que la présence américaine à Gaza sera la clé de voûte pour une solution durable de cette crise.
Alberto Toscano, je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des questions européennes. Merci d'avoir répondu aux questions
Je
de
vous en
Radio
prie.
Judaïca.